Alors bonjour Luc Baudin, comment allez-vous?
Ben, très bien et merci de cette invitation qui me fait vraiment très plaisir, Katia.
Mais écoutez, c'est moi qui suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors pour la petite histoire, ben je vous ai rencontré lors d'une conférence que vous avez donnée au Salon du Bien-être à Biarritz et vous veniez présenter un de vos derniers ouvrages, Ensemble vers un monde nouveau. Donc c'était pour moi une évidence de pouvoir vous donner la parole sur mon podcast, qui est donc aujourd'hui Écrivons demain, puisque j'ai décidé de donner la parole aux acteurs que je dis être du nouveau monde. Alors vous êtes un ancien médecin,
Oui.
diplômé en cancérologie clinique, vous êtes spécialisé en médecine naturelle et en soins énergétiques. Vous êtes également conférencier, auteur, vous avez écrit, alors vous n'avez pas fait le compte, mais plus d'une trentaine de livres et des romans, parce qu'on ne le dit pas très souvent, mais vous avez également écrit des romans. Donc sur des thématiques qui vous parlent et que vous avez à cœur de transmettre au grand public. Et vous partagez également vos connaissances donc sur votre chaîne YouTube où vous êtes assez prolixe puisqu'il y a une banque de ressources à disposition assez incroyable. Donc est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre présentation, Luc?
Oui, c'est vrai que je suis prolifique au niveau des livres, au niveau du site, mon site internet, où il y a plus de 1000 articles qui sont à disposition sur des sujets variés, sur toute l'évolution personnelle, etc. Et puis sur YouTube, où il y a à peu près 3 nouvelles vidéos toutes les semaines. Donc ça fait du travail, mais c'est vrai que dans ma vie, en fait, comme vous le racontez, j'ai été médecin pendant 25 ans, et puis il y a eu comme pas une fracture, parce que j'aime pas ça, mais un changement important dans mes activités par choix personnel. Et donc là, j'ai arrêté mes activités de médecin pour passer justement plutôt dans la diffusion, comme vous l'avez dit et comme je viens de vous le rajouter également.
Alors, on peut effectivement se poser la question, qu'est-ce qui vous a fait passer de médecin généraliste à médecin spirituel, puisque vous parlez souvent de la médecine spirituelle?
Ben, c'est que pour le moment, maintenant, j'ai plus la casquette de médecin parce que je suis passé à autre chose. Mais c'est vrai que, comme on dit, médecin un jour, médecin toujours, c'est un peu vrai aussi. Et c'est vrai qu'il y a toujours. Mais pour répondre à votre question, j'ai été médecin. C'était plutôt à l'époque, on parlait pas de médecin généraliste, on parlait plutôt de médecin de famille, ce qui était beaucoup plus sympathique comme travail et comme présentation d'ailleurs. Et depuis le départ, j'ai toujours travaillé avec des médecine naturelle, c'est-à-dire que mon choix, quand je faisais mes études, soit je me spécialisais en cardiologie, rhumatologie, etc., soit je prenais mon travail de médecine générale, mais avec une orientation de médecine naturelle. Je faisais l'acupuncture, l'homéopathie qui était reconnue par l'ordre des médecins à cette époque-là, et la sophrologie. Donc c'est après ça, j'ai fait plein de formations qui m'ont amené une multitude d'informations complémentaires sur l'être humain, parce que chacune spécialité a toujours une. Moi, pour moi, c'était comme si chacune avait une pièce du puzzle, un petit peu, qui constitue l'être. Et puis un jour, pas un jour, mais une certaine période, je me suis plus senti en adéquation avec mon métier. Le métier avait changé, il y avait des impositions qui avaient été faites qui me gênaient aux entournures. Tout avait changé, même les patients avaient changé, ils avaient changé d'état d'esprit, etc. Donc c'est ni bien ni mal, hein. C'est pas une. Je suis pas là en train de dire oh le bon vieux temps, c'est pas du tout ça. C'était plutôt de. Il faut bien s'apercevoir quand les choses changent, et je me reconnaissais plus dans ce travail-là, et donc c'est là que j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, et à ce moment-là, la première élément, c'était de transmettre déjà toutes les informations que j'avais pu collectionner pendant 25 ans de pratique, ça en fait un bon nombre. Et puis après ça, mon idée était surtout de transmettre, et je continue toujours à transmettre des outils pratiques pour que chacun puisse devenir quelque part autonome. On aura toujours besoin de médecins, de thérapeutes, etc. Mais si on peut déjà se débrouiller sur un grand nombre de choses, et là, c'est un petit peu le travail, entre guillemets, parce que c'est même pas un travail, en ce sens que je suis mon chemin de vie, hein, tout simplement.
Alors, je voulais vous poser la question de quelle était la raison d'être de votre activité. Est-ce qu'on peut dire que c'est effectivement la transmission de votre savoir et pour autonomiser les patients ou les personnes, en tout cas, pour être en pleine santé?
Oui, parce que pleine santé et le bien-être, bon, la santé, le bien-être et l'évolution personnelle, c'est ça. Pour moi, tout va ensemble d'ailleurs. Et c'est vrai que pendant une période, j'avais le projet de lancer un centre de soins de médecine naturelle, en complément en particulier des traitements conventionnels pour les maladies graves. Mais c'était des compléments toujours. Moi, je ne suis jamais en opposition, je suis toujours dans le consensus, c'est-à-dire que je ne renie jamais mes 25 années de médecine conventionnelle, mais mes patients, quand ils venaient me voir, ils savaient que si je leur donnais un remède conventionnel, c'est parce que je n'avais pas de remède naturel qui pouvait avoir les solutionner leurs problèmes. Donc, ils savaient très bien que j'essayais toujours de trouver la solution la plus simple pour eux, mais je n'hésitais pas à recourir à la médecine conventionnelle quand il y avait besoin. Ça me paraît tout à fait normal. Donc, j'ai essayé de monter ce centre et ça ne s'est jamais fait, faute de financement. Et un jour, j'ai eu un flash qui m'est arrivé comme ça une nuit. Alors, me demandez pas pourquoi ça m'est arrivé en anglais, j'en sais rien, mais c'était do it yourself. C'est-à-dire, plutôt que de faire les choses pour les autres, quand on fait dans un centre de soins, même dans une consultation, etc., c'était l'idée, c'était justement d'apprendre aux personnes à le faire par elles-mêmes, donc qu'elles deviennent autonomes. Et c'est très intéressant parce que c'est un peu comme si quand on creuse un puits dans un pays, on revient l'année prochaine et l'année suivante, il y a toujours qu'un seul puits. Mais si on apprend aux personnes à creuser un puits, l'année suivante, il y en a 20, l'année d'après, il y en a 100, etc. Et donc, ça me paraît beaucoup plus, pour moi, c'était beaucoup plus important parce que ça permettait de transmettre à davantage de personnes, tout simplement.
C'est aussi reprendre notre responsabilité dans ce qui nous arrive.
Ça prend de la responsabilité parce que pour moi, ce qui est essentiel, bien le comprendre, c'est que ce n'est jamais été le médecin, ni le thérapeute, ni le psychologue, etc., qui guérit un patient. C'est le patient lui-même qui guérit. Nous, en tant que thérapeute, médecin, psychologue, etc., on va l'aider sur son chemin. Mais c'est lui qui doit faire le chemin. C'est lui qui doit travailler à son changement, parce que la maladie oblige à un changement aussi. Donc, changement dans son mode de vie, dans sa manière de penser, dans recherche de recherche de sens de sa vie, sens de la vie, etc. Donc, c'est son chemin à lui qui va le mener à la guérison. Nous, on est là pour l'aider le mieux que l'on peut.
Être un guide, un accompagnant, mais en tout cas, pas celui qui va venir résoudre les problèmes.
Un guide, non, je dirais pas guide, parce que justement, le guide risque toujours de donner une voix et c'est plutôt d'accompagner. Et c'est vrai que parmi mes patients, il y avait des patients qui faisaient des choix qui n'auraient pas été les miens. Donc, mais je respectais toujours leurs choix et je les accompagnais, quel qu'était leur choix pour les aider sur cette route. Il y a jamais de mauvaise route, il y a jamais de mauvais choix, il y a toujours des choix qui vont nous apprendre et nous faire évoluer, hein, de toute façon.
Quelles sont les valeurs qui vous animent dans votre quotidien ? Alors, la transmission est une valeur, me semble-t-il, très importante. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Je dirais que la valeur la plus importante pour moi, au-delà de tout ça, c'est liberté. Ma liberté. Ma liberté, et c'est pour ça aussi, au travers de ce que je viens de dire, c'est aussi de rendre les gens libres, rendre les personnes libres et autonomes. Et c'est ça, je veux dire, il faut que les personnes soient libres de tout, y compris de moi. Il n'est pas question du tout que je les enferme dans quoi que ce soit ou dans un quelconque prosélytisme, mais c'est d'abord la liberté. Et c'est à travers tous ces outils. Là, je viens de sortir aussi un livre sur l'éveil spirituel et j'insiste bien sur le fait que c'est un chemin individuel et les réponses que les personnes vont donner sont des réponses personnelles qui seront pas forcément les miennes, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important. La principale, c'est qu'elles trouvent leur chemin, qu'elles suivent leur chemin. Et moi, avec le livre, je transmets des informations, mon expérience, etc., tout en disant bien que ce n'est que mon expérience et je donne pas mes réponses parce que chacun doit se souhaiter libre. Donc c'est pour ça que c'est très très important à mon sens cette liberté. Et aujourd'hui, on a trop perdu cette liberté en donnant le pouvoir aux dirigeants, tout simplement, le pouvoir au niveau, au patron qui va nous diriger. On perd au fur et à mesure notre pouvoir et notre liberté. Et on l'a vu d'ailleurs très, très distinctement. Et ça, c'est un gros problème à se poser au niveau de notre société. On a vu avec la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on avait la sécurité d'un côté, ou celle qui était prétendue telle, et puis il y avait la liberté de l'autre. Et en fait, pour des raisons dites de sécurité, on éliminait nos libertés. Donc c'est aussi le savoir, ça c'est un problème de société, c'est pas un problème, mais entre sécurité et liberté, c'est, vous voyez, par exemple, le choix que j'ai fait au niveau d'arrêter mon boulot de médecin pour faire autre chose. Et à l'époque, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je suis parti un petit peu en me disant, j'ai envie de faire autre chose, mais quoi? Et en fait, je suis parti de la sécurité. J'étais médecin, ça fonctionnait bien, j'avais plusieurs, un ou deux mois de rendez-vous d'avance, etc., sur mon cahier de rendez-vous. Donc, c'était la sécurité. J'aurais pu continuer jusqu'à la retraite tranquillement. Et puis, mais je me sentais plus libre. Donc après ça, à un moment, j'avais même fait une émission pendant un moment avec une radio canadienne et je l'appelais Électron Libre. Un électron libre pour des électrons libres.
Oui, effectivement, notre liberté ces dernières années a été mise à mal. Et après, qu'est-ce que la liberté? C'est une définition aussi peut-être très subjective.
Puis c'est important d'être déjà libre dans sa tête. Si on n'est pas libre dans son corps, mais ce qu'il faut, c'est toujours veiller à ne pas donner notre pouvoir aux autres et garder toujours le pouvoir. Et c'est pour ça que c'est intéressant des techniques comme Ho'oponopono, la loi d'attraction, les soins énergétiques, etc. C'est parce qu'en fait, ça nous montre que nous pouvons reprendre notre pouvoir et changer les choses aussi. Et ça, c'est aussi important. Pour moi, je considère que nous ne sommes jamais, j'y bien, jamais une victime, sauf si nous nous présentons comme ça. Donc, parce que si on est une victime, c'est qu'on n'a rien à faire. Donc, on n'a plus qu'à subir les événements. Si par contre, avec certains points de vue, certaines techniques, etc., on reprend notre pouvoir, sur notre vie, etc., et là, ça change complètement, fondamentalement, évidemment, parce que pour moi, l'être humain naît libre. Il naît libre. On est libre depuis le jour de notre naissance. Et après, on galvaude un peu ce pouvoir à droite ou à gauche, voilà. Donc c'est pour ça cette transmission a pour but aussi de rendre les personnes libres et autonomes. Après ça, c'est le passage d'information, le passage d'expérience, tout en étant très respectueux. Je suis toujours très respectueux sur ce que vont en faire les personnes, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a jamais de mauvais choix. Alors, on peut dire oui, il y a le bon choix qui va nous emmener vers la lumière, l'autre qui va nous emmener vers l'ombre. C'est vrai, on peut le présenter comme ça. Mais seulement si on va vers l'ombre, c'est qu'on l'a fait pour des raisons qu'on pensait pertinentes et qui n'allaient nous rendre heureux. Mais seulement en vivant cette expérience, on va comprendre, on va apprendre, on va évoluer. Et le jour où on aura compris, à ce moment-là, on changera notre manière de penser pour repasser sur d'autres considérations. C'est toujours un apprentissage.
Mais effectivement, faut-il encore prendre conscience qu'on n'est peut-être pas complètement libre, ou du moins qu'on a la capacité de reprendre notre pouvoir et de pouvoir être souverain dans nos choix de vie, même si parfois on a l'impression qu'on n'a pas le choix, mais qu'on est contraint de faire quelque chose contre notre gré, alors que si, on a toujours le choix de.
Et oui, c'est pour ça qu'il y a pas que moi, bien sûr, il y a d'autres personnes qui sont là pour réveiller, rappeler qu'il faut pas se laisser emporter, il faut les informations, c'est bien de les entendre, mais ce qu'il faut, c'est toujours chercher des informations alternatives, des informations sur d'autres points de vue, avant de se faire une opinion personnelle. Et après, Chacun choisit, et là encore, les réponses qu'on apportera, c'est bien. Imaginons un monde où on serait tous d'accord. ce serait terrible. On n'aurait plus rien à se dire. Tu penses ça? Oui. Bon, tu penses ça? Oui. Tu penses ça? Oui. Bon, bah, écoute, salut, à la prochaine fois. Et au contraire, le discours, le fait de pas avoir les mêmes points de vue, etc., ça nous fait des échanges et qui sont toujours enrichissants. Et c'est pour ça aussi que le mélange des individus, le mélange des populations, le mélange des niveaux sociaux, les mélanges des sexes, de féminin et du masculin, et donc tout est fait aujourd'hui pour nous séparer, alors que nous sommes tous faits pour être unis ensemble, et on n'est pas jamais le féminin et le masculin n'a jamais été en opposition, ils ont été toujours en complémentarité, ils sont des complémentarités, et c'est si on représente un peu comme la médecine naturelle et la médecine conventionnelle, pour moi c'est pas en opposition, c'est une complémentarité, c'est tout.
Oui, on vit de plus en plus de clivages.
Oui.
Comme vous dites, on oppose sans arrêt des catégories de population, les hommes et les femmes. On est sans cesse en train de renforcer cette disharmonie qu'il peut y avoir entre nous.
Oui.
Alors, comme vous dites, les choses peuvent être complémentaires et pas du tout en opposition. Et
oui,
vous le dites souvent, effectivement, pour les médecines alternatives, c'est un terme que vous n'aimez pas tellement, puisque vous préférez effectivement médecine complémentaire et l'un ne va pas sans l'autre. Oui.
Voilà. J'appelle jamais médecine alternative, j'appelle jamais médecine douce, parce qu'elles ne sont pas forcément douces. Les médecines naturelles peuvent, elles peuvent être alternatives quand la médecine conventionnelle n'a pas de solution. Autrement, quand la médecine conventionnelle a une solution, elles vont se situer en complémentarité. Moi, j'avais vu ça en cancérologie quand je voyais mes patients, les médecines, les remèdes naturels, pour ne parler que d'eux, parce qu'il y a bien d'autres choses à travailler aussi. Ça pouvait agir déjà sur l'état général, sur le stress, sur l'angoisse, sur le sommeil. Ça pouvait agir aussi pour renforcer les remèdes naturels, les remèdes conventionnels, pour les rendre encore plus efficaces. Lutter contre les effets indésirables. Et il y avait même des remèdes qui pouvaient avoir des effets véritablement contre le cancer. Mais comme on n'a pas assez d'études pour les asseoir, eh bien, on ne peut pas les présenter comme étant des alternatives. Mais il y en a. Donc, après ça, mais c'est pour ça que j'ai fait aussi le chemin qui va beaucoup plus loin. Et vous l'avez un peu soulevé tout à l'heure avec la médecine spirituelle. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, je prêche véritablement pour une médecine holistique, mais au sens très large. La médecine conventionnelle, évidemment, qui pour moi est toujours incontournable pour la chirurgie, pour les maladies graves, et après pour les urgences. Après ça, les médecines naturelles. Il y a l'apport émotionnel, l'apport psychologique avec les croyances, les conflits, etc. L'apport énergétique et l'apport spirituel. Et pour moi, le traitement doit prendre l'être humain dans sa complétude. Et j'avais souri parce que c'était un cheminement qui a pris du temps pour arriver à voir un petit peu l'intérêt et l'importance de chacun. Et en fait, j'ai relu un peu après un écrit de Platon qui disait exactement ça, la même chose, mais il y a 25 siècles. Je dis, bon, bah, écoute, Luc, t'as rien inventé ou t'as pas inventé l'eau chaude. Mais c'est vrai que le soin de l'être, de l'âme, de nos aspirations, etc. Et à mon sens, c'est un élément primordial pour les maladies, ce qui n'empêche pas, bien sûr, comme je l'ai dit, de prendre les traitements conventionnels, etc. Mais il faut prendre, c'est très important de prendre cette conscience de cette dimension dans la maladie, mais dans la vie, je dirais aussi.
Oui, parce que par rapport à la médecine, on est dans une approche très morcelée, avec des spécialités, c'est-à-dire qu'on vous découpe presque par morceaux, c'est-à-dire vous avez une problématique digestive, c'est la médecine digestive qui va se charger de vous, sans prendre en compte effectivement la globalité, votre être, votre état émotionnel, psychologique. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là à réinscrire, et au niveau holistique, d'avoir une prise en charge et une approche beaucoup plus globale.
Oui. Et c'est là que, quand je me suis intéressé à la symbolique des maladies, on peut l'appeler pas ça comme ça, et il y en a beaucoup qui appellent ça le décodage biologique, mais ça s'appelait encore autrement mais peu importe. Ce qui m'a intéressé dans cette mise à part le bon sens, il y a toujours pourquoi tel cancer chez un fumeur va aller sur la gorge plutôt que le poumon, plutôt que la vessie, etc. La médecine n'a pas de réponse, et là, avec la symbolique, on va déjà pouvoir trouver beaucoup plus le facteur déclenchant psychologique, mais surtout, c'est surtout qu'avec elle, les maladies qui étaient très disparates, comme je les ai appris, parce que d'un seul coup, il y avait la tuberculose, et puis il y avait l'ulcère d'estomac, et puis il y avait les polypes intestin, etc. Donc, il y avait le cancer, il y avait la migraine, et donc c'était des maladies, mais qui sont les unes à côté des autres. Et quel est le, mis à part l'être humain qui est souvent oublié en médecine conventionnelle, qui est au milieu de tout ça, eh bien, quel est le sens? Et là, d'un seul coup, avec la symbolique, ça m'a permis de voir comment tout ça, ça s'articule ensemble, et que ce ne sont pas des maladies disparates, c'est simplement notre être, notre âme qui souffre, et depuis longtemps, et qui est en train d'envoyer des messages à travers la maladie, pourquoi tel type de maladie et pourquoi pas tel autre, pourquoi tel organe et pas tel autre, etc. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Mais comme je le dis, c'est dans la médecine holistique, on utilise tous les outils et on ne... Surtout, c'est pas... Je suis absolument opposé à supprimer, justement, par exemple, dans un cancer, de ne pas utiliser tous les outils, dont les médecines conventionnelles.
Et ce qui donne aussi finalement une ouverture pour la personne qui est malade, c'est-à-dire en termes de réflexion et de questionnement, et d'ouvrir son champ de conscience, ou de s'éveiller aussi peut-être à des questions sur le sens. Qu'est-ce qui fait peut-être que j'ai cette maladie, dans quel contexte, pourquoi, et pas de se renfermer sur voilà, je suis malade, et au contraire de réfléchir et de questionner ça.
Oui. Ouais, vous savez, c'est un peu comme le cancer. Évidemment, je l'ai beaucoup travaillé de par le diplôme. Le diplôme que j'ai passé montre bien que c'était une maladie qui me tenait à cœur. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, il y a moi et il y a le cancer. C'est comme si c'était deux choses différentes. Et en fait, le cancer fait partie de la personne. Les cellules cancéreuses sont des cellules qui viennent de la personne. Donc là aussi, il faut changer un petit peu son point de vue par rapport à ça et ne plus... souvent, moi, je voyais ça avec des personnes qui faisaient de la méditation. Elles me disent « Ah oui, moi, je médite pour que les cellules immunitaires aillent attaquer les méchantes cellules cancéreuses, etc. » Donc je dis « Oui, je comprends bien pourquoi elles font ça, parce que c'est la vision, c'est le point de vue que défend la médecine conventionnelle. Je l'entends bien. Mais je leur dis, si vous considériez les choses autrement, on sait que les cellules cancéreuses, il y a un certain nombre de cellules qui sont ce qu'on appelle révertantes, qui naturellement ou avec certains remèdes, certains donc qui reviennent à une fonction normale. Et donc, si je leur dis, c'est plutôt que de dire on va attaquer, etc., et si vous envoyez plutôt de l'amour, de la compréhension, d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi le cancer est arrivé et de lui envoyer plein d'amour et de demander à ces cellules qui ont muté, qui se sont transformées, de revenir un peu comme des enfants prodigues qui reviennent à la maison. Donc, alors je peux pas dire que sur le plan médical, si ça, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses qui interfèrent sur une évolution, ça c'est clair. Donc on peut jamais dire quoi fait qui, etc. Mais ce que je peux dire par contre, c'est que les personnes qu'on fait ce genre de méditation, qui ont abordé leur maladie de cette manière, étaient beaucoup plus sereins. Ont vécu beaucoup plus sereinement, beaucoup plus dans la paix que de se dire « je suis, mon corps est un vaste champ de bataille ».
Et là aussi, c'est changer de posture, c'est ne pas se victimiser, je suis malade et je ne peux rien contre cette maladie, je m'en remets au corps médical. C'est aussi reprendre possession de soi, de son corps et de son être, et essayer d'accompagner cette maladie qui est là et de... Peut-être même d'avoir effectivement une action positive dessus, puisqu'on est aussi créateur. Enfin, en tout cas, on a un pouvoir créateur qu'on ne soupçonne pas toujours.
Une puissance de la pensée qui est énorme. Et c'est pour ça que les chocs émotionnels, les symboliques, tout ça, ce ne sont pas les causes de la maladie. C'est pas la cause de la maladie, on est bien d'accord. Mais c'est souvent le facteur déclenchant. C'est ça qui va faire que la maladie va se déclencher à tel moment sur tel organe. Et c'est vrai que la maladie, on n'aide pas les personnes, justement, en médecine conventionnelle, en les laissant, et les personnes sont la tête dans le guidon avec la chimio, la radiothérapie, la chirurgie, etc. Ce que je conçois, 100%. Mais seulement, au bout, il y a un certain nombre de personnes qui se posent aussi des questions du pourquoi. Qu'est-ce qui peut... Alors, il y a beaucoup de personnes qui commencent à dire, je vais regarder du côté des médecines naturelles, ce qui est très bien, mais qu'est-ce que je peux faire obtenir en plus des traitements conventionnels? Ça, c'est déjà très bien, mais il faut aller beaucoup plus loin en ce sens, en recherchant, je dirais, le sens de la maladie, en recherchant, en plus, quand on développe une certaine vision spirituelle, de savoir, quand on a répondu à ces questions, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, eh bien, ça nous permet d'avoir non pas une vision plus élevée, ça c'est prétentieux, c'est d'avoir une vision différente et plus globale de la situation qui nous permet de mieux l'aborder à mon sens.
Alors, je fais le lien avec la petite phrase que vous avez écrite dans votre livre « Tous ensemble vers un monde nouveau ». Rien n'est écrit, c'est en nous et dans les choix que nous faisons.
Non, mais c'est pas, j'ai bien compris.
Oui, c'était pour résumer en tout cas ce que vous étiez en train de dire. Enfin, ça m'a fait faire le lien avec cette petite phrase qui ouvre en tout cas un champ des possibles sur ce que l'on vit, sur notre santé, sur notre capacité à créer le monde que nous désirons, à peut-être guérir de la maladie, à comprendre en tout cas effectivement la puissance que nous avons en nous.
Bah, c'est-à-dire, faut bien le comprendre, c'est que on a tous un chemin de vie qui nous permet d'avoir des expériences, qu'on qualifie parfois comme des épreuves, mais tout ça nous aide à nous développer, à développer notre état d'esprit, à développer notre conscience, à ouvrir un certain spiritualité. Spiritualité, il faut bien comprendre que ça vient du spirit. Spirit, c'est l'esprit. L'esprit par opposition à la matière. Donc se dire, ok, j'ai un corps, mais j'ai aussi un esprit. Et donc, développons un petit peu cet esprit, voyons un petit peu cet esprit, c'est évolué. Alors là, de toute façon, nous sommes tous amenés à le faire, mais quand il y a une maladie, surtout une maladie grave, là, on est en train de nous secouer, un peu comme de nous dire, bon, écoute, tu n'as pas voulu le faire jusqu'à présent, maintenant, avec cette maladie, il faut que tu t'y mettes un bon coup. C'est pas une punition, hein. La maladie n'est jamais une punition. Moi, il y a pas de jugement, il y a pas de tout ça. C'est simplement de pousser vraiment la personne dans ses retranchements pour lui dire maintenant, ça suffit, il faut que tu le fasses, il faut que tu y ailles. Donc on évolue, et là il y a les nouvelles énergies qui arrivent aussi sur la Terre et qui nous favorisent ça. Il y a les énergies qui nous élèvent d'un côté, il y a la situation mondiale qui nous fait baisser de l'autre. On est un peu tiraillé entre les deux, mais l'idée c'est qu'on doit suivre notre chemin, et c'est un chemin qui va, si on suit notre chemin de vie, et c'est ce que demande la maladie, de reprendre notre chemin de vie, rien d'autre, c'est pas plus compliqué que ça. Elle nous indique comment et pourquoi avec du côté pragmatique. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où on suit notre chemin de vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est heureux. On est dans le bonheur et on avance vers la lumière, c'est-à-dire vers les éléments essentiels que forme notre être. Donc la maladie nous pousse à faire ça, la vie nous demande de faire ça. Et les énergies nouvelles qui arrivent aujourd'hui sur la Terre nous donnent un carburant qui nous permet de faire ça encore plus facilement. Sauf que d'un autre côté, les situations de la vie actuelle a tendance à nous freiner d'une manière terrible également. Mais donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui me disent « Oui, mais demain, il y a toutes les... » Moi, j'ai travaillé pas mal sur les prophéties, sur les légendes, etc. On nous parle toujours d'un avenir magnifique, un âge d'or pour l'humanité. Mais bon, rien n'est fait. Ça va pas venir comme ça tout seul, ça va pas se faire tout seul, c'est comme la guérison, c'est comme l'évolution personnelle, et il faut que la personne prenne une part active là-dessus. Alors, si on veut changer le monde, eh bien, il y en a plein qui ont déjà dit ça d'une manière importante. Je dirais qu'il faut commencer tout simplement par travailler sur soi. C'est ça qui nous est demandé, de travailler sur soi. Parce que si on travaille beaucoup sur les autres et qu'on s'oublie soi-même, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et on peut pas bien aider les autres si on n'a pas travaillé sur soi. Donc, et le truc, c'est qu'il faut jamais forcer les autres à quoi que ce soit. Donc, leur donner les différentes solutions, les différentes possibilités, mais c'est à eux de choisir. Nous, ce qu'il faut, c'est essayer de suivre notre route, évoluer, avancer, développer notre esprit, notre spiritualité, spirit, et selon ce qu'on veut. Et donc là, ça va nous pousser aussi vers des nouvelles pensées, des pensées plus humaines, je dirais, quelque part, d'égalité, de partage, de compréhension, de compassion, etc. Donc, on va changer à ce moment-là nos points de vue, notre manière d'aborder le monde. Et donc, il faut travailler sur nous. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est, si on fait ça, on va se retrouver beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus heureux sur notre chemin de vie. Et puis, les autres vont commencer à se poser des questions. Et ça peut aussi, à ce moment-là, ce qu'on a fait peut aider les autres à faire de même s'ils le désirent. Et là, il ne faut jamais forcer personne à faire quoi que ce soit. Chacun est libre de faire, de suivre la vie qu'il désire. Voilà, donc c'est pour ça que je dis tous en... Donc, il faut bien savoir que rien n'est jamais écrit, même si des prophéties nous disent « on va vers l'âge d'or », etc. Oui, mais l'âge d'or, est-ce qu'il va venir demain, dans un siècle, dans 1000 ans, dans 20 000 ans, dans 100 000 ans? On n'en sait rien, parce que ça va être, c'est à nous d'œuvrer pour qu'il arrive. Il ne va pas arriver tout seul, ça ne va pas nous arriver par parachute. Et si on veut le faire venir, eh bien, l'élément clé, c'est de travailler sur nous. C'est ça le plus important, c'est ça qui nous est demandé. Et puis après ça, si les autres demandent une aide, un soutien, etc., c'est bien, mais il faut toujours respecter leur libre arbitre, leur choix, leur désir, etc. Ça, c'est important.
D'autant qu'on dit souvent que ce qui est à l'extérieur est une projection de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Alors, quel conseil est-ce que vous donneriez à ceux qui nous écoutent pour travailler sur soi? Comment évoluer, en tout cas dans sa manière de penser les choses, de voir le monde, d'agir, de se comporter? Comment est-ce qu'on peut...
Vous savez, c'est un peu ce qu'on appelle l'éveil spirituel, qui est un gros mot, à mon sens.
C'est oui, alors qu'est-ce que mot. C'est l'éveil?
C'est un très gros mot qui fait plus peur, parce que d'un seul coup, on se dit « Ah, où est-ce que je vais pouvoir... Où est-ce qu'est le réveil pour mon éveil ?» Donc, le truc, c'est très, très simple. Hein, c'est très simple, l'éveil spirituel. C'est que, tout simplement, nous sommes dans notre vie. Aujourd'hui, on a été formaté pour vivre dans cette société, pour gagner de l'argent, pour essayer de développer notre compte en banque, développer, monter au niveau social, avoir une belle maison, une grosse voiture, etc. Tout ça, bon, on nous a fait croire que c'était le bonheur. Et en fait, arrive un moment, on se dit, bon, allez, je viens encore de changer 10 fois de voiture et j'ai du plaisir pendant une semaine quand je la conduis, puis après, j'y pense même plus. Et donc, c'est pas le bonheur. Et donc, à un moment, on se dit, ok, on a le côté matériel, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Et c'est là que commence l'éveil spirituel, par le fait de se dire, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a... qu'est-ce que c'est que la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une réincarnation? Est-ce que Dieu existe? Etc. Donc, et là, on est beaucoup aidé d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'avant, c'était toujours plus du domaine de la croyance, de la religion. Mais maintenant, on a la possibilité de faire un travail sur soi par la spiritualité individuelle. Et ça, moi, je trouve ça, moi qui suis un électron libre, ça me fait beaucoup plaisir d'être maintenant complètement en dehors de tout système religieux. Mais je n'écarte pas les religions, parce que des personnes ont besoin du cadre de la religion pour évoluer. C'est, il n'y a pas de mauvais choix là encore. Mais faut bien savoir qu'on peut le faire par soi-même. Et c'est un, là, comme je le disais tout à l'heure, c'était un choix individuel, mais on va aller écouter, on va lire les textes sacrés des différentes religions, on va aller écouter les grands sages, on va regarder les philosophes, on va écouter des conférences, etc., qui vont nous faire avancer. Mais c'est nous qui devons faire ce chemin. C'est ça l'éveil spirituel. Rien d'autre, hein. C'est pas. Un jour, à un moment, on se dit bon, je suis pas là peut-être que pour avoir une grosse voiture et une belle télévision, surtout que ça va pas suivre le corbillard, le coffre-fort ne suit pas le corbillard. Et donc, voilà, et on se dit est-ce qu'il n'y a pas un autre? Et là, mais c'est la physique quantique nous aide beaucoup, justement, quand on se penche un peu là-dessus, parce que lire les bouquins des grands comme Einstein, comme Hubert Reeve, comme Hawkins, qui nous montrent justement que le monde n'est pas du tout comme on le voit, et que le monde matériel n'est que la partie émergée de l'iceberg, et l'énorme partie, c'est une partie énergétique et spirit. et spirit, pas tuel, mais on peut presque y aller parce que c'est l'énergie et l'esprit hein, qui nous montre que c'est l'énergie et l'esprit qui est derrière la matière. Donc là, ça ouvre des grandes perspectives et qui nous permet. On avait beaucoup les croyances aujourd'hui. Maintenant, je dirais, on l'a pas encore la preuve de Dieu, mais on la touche. On la touche. Je du doigt.
Et justement, vous parlez de ces énergies massives que nous recevons en ce moment sur la Terre. Et vous parlez d'ailleurs du taux vibratoire de la Terre dans ce livre dont je mentionnais le titre tout à l'heure. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas et qui ne comprendraient pas ce que c'est que le taux vibratoire et ces énergies, qu'est-ce que vous pourriez en dire pour vulgariser un petit peu les choses ?
Oui, de toute façon, tout est simple. Hein. On vient déjà de préparer le terrain en disant que la matière est de l'énergie. La matière, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que la physique quantique a montré que toutes les particules, c'est de l'énergie concentrée qui va former. La concentration va donner la matérialisation de la particule. Donc, toutes, on est formé de milliards de particules. L'univers est formé de plein de particules. Donc, toutes les particules formées d'énergie, elles vibrent. On est bien d'accord. Et chaque particule vibre à des fréquences différentes. La fréquence d'un électron sera pas la même que d'un proton, d'un neutron ou d'un quark. Et donc, les cellules sont formées de particules, les organes sont formés de particules, le corps humain est formé de particules. Donc, par exemple, le corps humain ou la planète, la Terre, est un agglomérat de particules qui chacune d'elles vibre. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le taux vibratoire de l'ensemble, la moyenne, je dirais quelque part, de cette vibration de toutes les particules. Ça, c'est valable au niveau d'un être humain, c'est valable au niveau de la planète, c'est valable au niveau de tout. Et c'est pour ça que notre niveau vibratoire aussi nous change en fonction de notre état de fatigue, notre état de pensée, nos angoisses, etc. Et le taux vibratoire de la Terre également va suivre. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce taux, on pourrait dire le niveau, parce que le niveau vibratoire serait plus français que le taux, mais on parle beaucoup de taux, alors je vais rester sur le taux. Le taux vibratoire monte d'une manière très très importante. Il a commencé dans les années 80, mais il monte d'une manière très importante depuis 2-3 ans en fait. Et pourquoi il monte ? C'est parce que notre planète, la Terre, est certainement le système solaire et certainement les systèmes solaires limitrophes, eh bien, reçoivent aujourd'hui une quantité d'énergie importante provenant de l'espace, d'après certains auteurs, ce qui expliquerait d'ailleurs le phénomène, parce que l'univers, dans sa globalité, ou au moins la partie qui nous correspond, eh bien, est toujours en évolution. Tout bouge. Rien n'est fixe, l'univers n'est pas fixe. Donc, c'est pas un cercle avec un éternel recommencement, c'est une spirale. Donc, c'est une spirale qui est ascendante et l'univers, et lui aussi, monte au niveau de la conscience et la conscience des êtres qui l'habitent. Et là, on serait dans une période où on passe une nouvelle étape de son niveau de conscience. Donc, tout monte. Le niveau vibratoire monte au niveau de l'univers et l'envoie de l'énergie sur la Terre et l'envoie de l'énergie aussi à tous les êtres humains qui sont appelés, s'ils le veulent, à suivre cette évolution. Et en montant, s'ils montent leur niveau vibratoire, à ce moment-là, ils vont ouvrir leur esprit, ils vont ouvrir leur cœur, ils vont ouvrir leur conscience. Et là, si on est nombreux à le faire, on peut créer un monde merveilleux pour demain. Mais comme je le disais, ces énergies, c'est pas elles qui vont le faire pour nous. C'est-à-dire que c'est comme de mettre de l'essence dans sa voiture. On met de l'essence, c'est le carburant, mais c'est pas ça qui fait monter, avancer la voiture si on fait pas tourner le moteur. Donc là, c'est à nous de faire tourner le moteur en désirant. Alors on le veut pas. Il y a pas de mauvais choix. Chacun le fera comme il veut. Voilà. Donc c'est un petit peu brièvement résumé le pourquoi de ce taux vibratoire qui monte actuellement et donc ça incite, on est dans une période véritablement de transition C'est une évidence. Transition, on la voit sur le plan matériel, parce qu'on sait très bien que le monde de demain ne sera jamais plus, jamais comme il a été il y a encore 3, 4, 5, 10 ans. C'est fini tout ça. On voit bien qu'on va vers un monde multipolaire, on va vers des changements complets, c'est que les pays prennent une autonomie individuelle, et c'est très bien. Et c'est très bien, il faut une émancipation du passé, il faut purifier ce passé, parce que quand on voit encore toutes ces charges qu'il peut y avoir au niveau, ne serait-ce qu'en France, mais partout dans le monde, des charges du passé colonial, mais il est temps de s'en sortir de ça, parce que et qu'on marche tous ensemble vers l'avenir, et on est tous frères, on est tous égaux, et comme on dit toujours, quand on regarde de l'espace la Terre, bah c'est bizarre, on voit pas les frontières.
Je me posais une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y apporter une réponse. Vous dites que le taux vibratoire a augmenté drastiquement ces dernières années et on vit des événements mondiaux particulièrement, on va dire, catastrophiques. Si on reprend la première partie de votre livre, on est plutôt tenté de tomber dans la dépression. Est-ce qu'il y aurait une corrélation, à votre avis, entre l'augmentation de ce taux vibratoire et les événements mondiaux que l'on vit? Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse ou pas apportée à ça, mais je me suis posé la question. Est-ce qu'au plus, on vit des énergies très puissantes et en plus, on vit une déstructuration de nos sociétés, du secteur, voilà, de la santé, de l'éducation, je me demande s'il y a un parallèle ou un lien à faire entre les deux.
Il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Il y a toujours des synchronicités. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où ça monte d'un côté, ça descend de l'autre. C'est la dualité. C'est toujours ainsi que ça se passe. Alors ça, on peut présenter ça sur le plan énergétique. C'est toujours cette dualité et c'est toujours là où se situe le libre arbitre de chacun. Une des lois de l'univers, c'est le respect du libre arbitre de chacun, et c'est pour ça que quand notre libre arbitre n'est pas respecté, là ça enfreint quelque part une règle de l'univers, et celui qui le fait peut être sanctionné. Alors après ça, on peut présenter ça d'une manière différente encore, d'une manière plus matérielle dans le sens que on peut se dire que il y a une connaissance d'un certain nombre de personnes qui savent que nous sommes appelés à ce lendemain de lumière, à une ouverture de conscience, etc. Mais certains peuvent avoir décidé de continuer de bénéficier de ce qu'ils ont eu, du contrôle qu'ils ont eu sur nous ces dernières années, ces derniers siècles. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, chacun verra un petit peu ce qu'il en est et aura compris. Et donc, le pouvoir est toujours tentant et de se dire, de garder ce pouvoir, c'est toujours quelque chose d'important. Et donc, pour garder ce pouvoir, il faut empêcher les personnes d'avancer, d'évoluer pour garder sous contrôle. Et ça, c'est une autre manière de pouvoir les... Et ce qu'il faut savoir, et les Indiens Hopi l'ont très bien expliqué dans une de leurs prophéties, c'est que, comme je le dis, l'univers est en train d'ascensionner, disons, monter de fréquence plus exactement, monter sa fréquence vers plus de conscience. Donc il entraîne toute la partie de l'univers entier, ou la partie qui correspond à ce phénomène, il entraîne tout l'univers, toute cette partie-là. Mais, donc la Terre est appelée à suivre ce mouvement. Mais là où ça peut, c'est qu'il peut y avoir dans ce mouvement général, il peut y avoir des freins locaux. Et donc, ayant un frein local, ça peut être justement à cause des pensées, comme ils disent dans les Indiens Hopi, les pensées désordonnées des êtres humains. Donc, quand on est dans la haine, dans la guerre, dans la rancœur, dans la peur, eh bien, tout simplement, ça va avoir comme conséquence de faire générer des pensées très négatives au niveau de l'ensemble de l'humanité. Et ça peut faire à ce moment-là que la Terre ne suive pas le mouvement. Donc, on peut le suivre.
Ça nous fait baisser les vibrations.
Ça fait baisser les vibrations, et ça fait que la Terre, l'univers va le faire, il va suivre le mouvement, lui, avec ou sans nous, il va le suivre, mais il peut très bien y avoir un frein. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on peut se dire, peut-être que certains veulent absolument mettre, appuyer sur le frein, parce que un jour ou l'autre, on suivra ce mouvement. Donc, on peut le suivre maintenant. Enfin, maintenant, oui, le suivre maintenant. Mais s'il y a un frein, le frein, il va bloquer pour combien de temps? Un an? Un siècle? 1000 ans? 10 000 ans? On n'en sait rien. Mais pour le moment, donc, et nous, ça, il faudra qu'on attende le prochain train qui peut venir, qui peut mettre du temps avant de venir. C'est clair. Donc, c'est pour ça que le mouvement est lancé. Mais d'un autre côté, il peut y avoir un frein local, justement, avec tous ces événements qui peuvent arriver. Moi, je suis affolé de voir comment tout ça, ça s'enchaîne les uns après les autres. Et quand il y a un mouvement qui se calme, il y en a un autre qui arrive. Et moi, je râlais particulièrement quand il y avait la réforme des retraites. Je dis, bon, peut-être qu'il y a besoin. Moi, j'y connais rien. Je vais pas juger là-dessus, mais peut-être qu'il y avait besoin d'une réforme des retraites. Mais est-ce qu'on avait véritablement besoin de la faire alors qu'on venait juste de sortir de l'histoire du Covid, alors qu'on venait juste avec la guerre en Ukraine? On avait besoin de respirer un peu, de souffler. Mmh. Et on pouvait reporter un petit peu peut-être cette réforme de quelques mois, de quelques années, histoire de laisser un petit peu le calme arriver par rapport à ça. Donc c'est pour ça, mais tous les événements s'enchaînent avec et ça nous laisse pas le temps de respirer, mais surtout le pire de tout, c'est que ça pourrait, si les personnes ne font pas attention, ça peut les empêcher de réfléchir. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec le confinement. D'un seul coup, on avait du temps pour réfléchir, et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des évolutions très importantes au cours de ce moment. Mais quand il y a les événements qui s'enchaînent aussi bien à l'échelon personnel que général, on n'a plus le temps de réfléchir. Et la deuxième chose qui est son corrélat, c'est la peur. C'est que ça met toujours sur la peur de l'inflation, la peur de l'intelligence artificielle qui va nous prendre notre travail. Ça, c'est juste aussi. On peut avoir des craintes là-dessus. La guerre en Ukraine. Est-ce qu'il va y avoir une guerre à Taïwan? Et la guerre nucléaire et la prochaine pandémie. On nous parle toujours de nouveaux virus qui apparaissent ici et là et partout. Donc, il y a toujours une notion de peur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette peur nous amène vers la séparation, la division plus exactement. Et puis en plus, ça nous éloigne, c'est ce qui nous éloigne le plus de l'amour, tout simplement.
Alors, quel conseil vous nous donnez justement pour ne pas se laisser emporter dans cette spirale anxiogène, hein, parce que comme vous dites, on est comme acculé, on n'a pas le temps de respirer, ça s'enchaîne, ça se cumule. Effectivement, on parlait de la réforme des retraites, est-ce que c'était un écran de fumée? Comment est-ce qu'on peut faire justement pour préserver notre énergie, augmenter son taux vibratoire, ne pas se laisser emporter par tout ça? Comment vous faites, vous? Parce que quand on vous voit, vous êtes dans un optimisme constant, du moins c'est ce qui transparaît de vous quand on vous écoute et quand on vous lit. Comment vous faites?
C'est vrai que je suis un éternel optimiste. Parce que moi, j'adorais quand j'étais gamin, il y avait une définition de l'optimiste et du pessimiste. C'est que l'optimiste croit vivre dans le meilleur des mondes et le pessimiste craint que ce ne soit vrai. on vit pas dans le meilleur des mondes actuellement, mais ça fait partie de mon travail, je dirais aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour justement que les esprits s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent et qu'on puisse tous ensemble générer un monde de demain merveilleux, parce que en fait chacun va apporter sa pierre. Il y en a pas un qui va apporter une grosse pierre et l'autre qui va apporter une petite. On apporte tous la petite pierre à l'édifice, et donc ce qu'il y a, ça c'est très très important de ça. Et moi, la première chose que j'ai faite, et ça fait des années que je ne regarde plus la télévision, par exemple, je ne regarde plus la télévision. Je regarde des films, oui. Les informations, je les ai sur Internet, et je sélectionne à ce moment-là les informations qui m'intéressent. Je vais regarder aussi les informations, des points de vue différents sur le sujet pour me faire une opinion. Et puis, je prends du temps aussi pour méditer, pour me recueillir, pour aller me promener un peu dans la nature, etc., pour me recentrer. Et c'est ça, c'est très important. Et puis après, l'éveil spirituel, c'est un peu le déclencheur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est d'un seul coup, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, à un autre niveau, etc. Mais c'est ce cheminement de la spiritualité, pour garder ce mot-là, qui est très galvaudé, malheureusement. Et ce cheminement, il se fait toute sa vie. Et toute notre vie, on va continuer. Et aujourd'hui, je crois, sincèrement, je pense certainement qu'il y a des choses qui sont justes dans ce que je pense. Mais peut-être que dans 10 ans, il y aura des choses qui auront certainement bougé encore. Donc, c'est important, c'est de pas se laisser enfermer. On a déjà suffisamment avec le quotidien, avec les choses, le travail, les enfants à l'école, les courses à faire, etc., et les factures à payer. Donc, n'en rajoutons pas trop en regardant la télévision, mais tenons-nous au courant, c'est important. Et puis, ce qui est important, c'est aussi pour monter ce niveau vibratoire. Bien sûr, avoir une hygiène de vie, une vie saine, une bonne alimentation. Oui, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour tout. L'alimentation, par exemple, si vous avez une bonne alimentation, une mauvaise alimentation, on sait que ça va vous apporter des problèmes de santé. Ça, ok. Mais si vous avez une mauvaise alimentation, si vous avez une bonne alimentation, ça vous garantit pas la santé pour autant. Donc, une hygiène de vie est importante, mais le plus important, à mon sens, un, c'est de travailler justement pour, et c'est là les outils que je transmets pour aider justement là-dessus, c'est gérer son stress. Ok. Solutionner tous les conflits que nous avons, que ce soit les vieux conflits qu'on n'a pas solutionnés, qui viennent du passé, etc., ou les conflits actuels. Parce que ça, ce sont des boulets qu'on a au pied et qui nous... Et puis après ça, prendre l'habitude de rester dans son intégrité. Ça, c'est aussi important, de pas faire des compromis sur des choses qui nous sont importantes. Après ça, de sortir du jugement. Là aussi, c'est très important. Qui sommes-nous pour juger les autres? Qui sommes-nous pour juger une situation? Il y a une guerre qui se déclenche, ok, on nous présente des histoires, on nous présente des motifs, on nous présente des motivations, mais en fait, on ne sait pas, quand on écoute les uns et les autres, on s'aperçoit que c'est comme quand il y a une dispute entre deux individus, on écoute l'un, ah bah oui, il a raison, on écoute l'autre, ah bah oui, il a raison, et en fait, c'est exactement ça. Donc, c'est faut sortir du jugement, et puis commencer à vouloir mettre des pensées de compassion, de compréhension, de tolérance, de partage. C'est un travail, j'allais dire, c'est pas un travail, bien sûr, mais ça nécessite une volonté de le faire. L'intégrité, le non-jugement, le fait d'être davantage dans la compréhension, dans la tolérance, dans le partage, sont des éléments qu'on met au fur et à mesure dans, et c'est l'expérimentation, parce que là encore, faut pas être, c'est pas quelque chose qui va se faire du ping. Allez, tiens, aujourd'hui, Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que il va y avoir toujours les vieux réflexes qui vont arriver avec un jugement. Quel imbécile celui-là, quel con celui-là, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a, il est complètement débile de dire une chose pareille, etc. Donc, les vieux jugements vont vite reprendre, mais aussitôt, faut les effacer pour remettre quelque chose de positif. Et au fur et à mesure qu'on le met dans sa vie avec la volonté, au fur et à mesure, ça devient une habitude, et on a pu, et ça, ces pensées élevées nous permettent de monter notre niveau vibratoire. Et inversement, en montant notre niveau vibratoire, ça nous favorise de développer des nouveaux paradigmes et des nouvelles pensées.
C'est un cercle vertueux.
Oui.
Et vous parliez donc aussi de l'énergie de l'amour.
Et oui, tout un programme. Katia, si vous avez assisté à ma conférence à Biarritz, je fais très souvent faire un petit exercice, l'exercice de l'amour. Et donc là, c'est un exercice qui est très impressionnant quand on le réalise, parce que ça se fait à deux. Donc, il y a une personne, on décide entre nous, entre les deux personnes, qui va commencer à envoyer de l'amour à l'autre, et l'autre se met en réception. Et au bout d'un certain temps, on fait l'inverse pour que les deux puissent apprécier les deux situations. Et l'important, c'est qu'on voit quand l'autre nous envoie de l'amour, mais on le sent. Et qu'est-ce qu'on se sent bien, qu'est-ce qu'on se sent heureux, etc. Et inversement, quand on envoie de l'amour, c'est pareil. Donc c'est vraiment un sentiment qui est extraordinaire, où on est bien, nous sommes faits pour vivre dans l'amour, nous sommes faits pour penser dans l'amour, parler de l'amour, agir dans l'amour, etc. Et dès qu'on est dans la peur, dès qu'on est dans la rancune, dans la jalousie, etc., eh bien là, on sont des acides qui vont nous faire du mal et qui peuvent nous conduire d'ailleurs à la maladie, et enfin des facteurs déclenchants qui peuvent nous conduire à la maladie. Et alors que quand on est dans l'amour, dans le pardon, bah on est bien. On est quand même bête, hein. Je dis on parce que je me mets avec vous. Il y a pas, c'est un travail aussi à faire qui n'est pas. Les vieux réflexes ont tendance à sortir et il faut toujours travailler contre, mais sortir justement de tous ces sentiments nuisibles qui détruisent notre esprit et notre corps. Hein. Ça a des répercussions comme le stress. On sait très bien que c'est très mauvais pour le corps. Ça favorise un certain nombre de maladies. Voilà, donc c'est. Et puis moi je dis toujours, moi je suis toujours optimiste parce que je me dis, l'univers ne veut que notre bien, et donc là il veut notre évolution de conscience, et s'il cherchait à nous détruire, comme on est sans arrêt en train de nous dire, on nous montre un monde anxiogène avec des virus, des germes qui veulent nous détruire, etc. Mais il y avait Luc Montagnier qui expliquait très bien, parce que vous vous rappelez, c'était quand même le découvreur du sida, et il expliquait que si on veut arrêter la notion du sida en Afrique, bien sûr de distribuer des préservatifs, etc., c'est bien, l'éducation sexuelle c'est utile, mais l'essentiel, ce serait de donner à toutes ces personnes en Afrique des conditions de vie, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, un et de l'eau potable, un toit sur la tête, d'être heureux avec sa famille et avec ses voisins. Et c'est ce qu'on demande tous. Mais ça monte le terrain. Et si le terrain est bon, eh bien, le germe n'est rien, le terrain est tout. Voilà.
Oui, ce serait juste satisfaire les besoins fondamentaux.
Satisfaire, mais nous sommes faits pour avoir ces besoins fondamentaux.
Tout à fait.
Et regardez qui cherche à nous diviser. Et ceux qui cherchent à nous diviser cherchent à nous dominer. C'est tout. Nous, moi, j'avais fait un grand tour du monde pendant un an et demi à la fin de mes études de médecine. Donc, j'avais vu plein de pays, etc. Et à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu retiens de ce voyage? T'as vu plein de civilisations, de sites archéologiques, etc. Qu'est-ce que t'en retiens de tout ça? Et en fait, ce que j'en ai retenu, ce qui en est ressorti, c'est ça. C'est qu'en fait, partout, dans tout, moi, je vivais avec les populations locales parce que je faisais ça d'une manière la plus économique possible. Et en fait, je me suis aperçu que tout le monde, qu'est-ce qu'il veut? C'est ce que je disais. Avoir de quoi manger pour toute sa famille, avoir un toit sur la tête, de l'eau potable, avoir la santé, avoir au moins accès à les soins, etc. quand il y a besoin, être rampé dans sa famille, être rampé avec ses voisins, quelle que soit la couleur de peau, la religion, le machin, on s'en fout, ça n'a aucune importance tout ça. Le principal, c'est ça, ce à quoi l'ensemble de l'humanité aspire, sauf quelques-uns.
Alors, on s'approche tout doucement de la fin de l'interview, Luc. Donc, je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde. Qu'est-ce que ce serait pour vous, le Nouveau Monde? Alors, vous parlez de monde nouveau. Est-ce que finalement, on se rejoint sur, effectivement, ce que l'on projette, en tout cas, de quelque chose de différent de ce que l'on vit en ce moment? Qu'est-ce que ce serait pour vous? Et comment est-ce que vous apportez votre pierre à l'édifice pour que ce monde-là puisse se réaliser?
Là, j'ai expliqué un petit peu comment j'apporte ma pierre à l'édifice.
Oui.
Là aussi, je fais des soins énergétiques intemporels. Il y en a une bonne à disposition de tous et on peut les faire et les refaire. Et ils sont toujours aussi efficaces, quel que soit le moment où on le fait. Je fais des rassemblements aussi pour que les personnes viennent se recueillir, méditer, prier selon leurs croyances pour que la paix et l'amour arrivent sur cette terre et se développent sur cette terre. Donc tout ça, c'est des éléments sur lesquels je travaille. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que parallèlement à ça, les énergies montent, mais il y a aussi des nouvelles capacités chez l'être humain qui sont en train de se développer, qui est à l'état de jachère, un peu comme la télépathie, la téléportation, la clairvoyance, le ressenti, tout ça, c'est y était, mais c'est démultiplié aujourd'hui. Et on peine à imaginer de quoi sera fait le monde de demain. Le monde, ce sera un monde, imaginez un monde où il y aurait la télépathie. Imaginez un monde où tout le monde vit pour la pour l'équilibre, pour le partage, pour donc d'un seul coup, moi, il n'y a plus besoin de gouvernement. Je riais une fois parce qu'il y avait une école ou un lieu où ils étaient en train de préparer les dirigeants de demain. Mais je dirais que demain, on n'aura plus besoin de dirigeants. C'est justement, ce sera l'anarchie, mais au sens noble du terme, c'est que chacun aura conscience de ce qu'il est, de comment il est, etc. Et du respect qu'il doit avoir avec la nature, qu'il doit avoir avec les autres, etc. Donc ça, c'est le but final. C'est sûr qu'on va arriver par des périodes qui vont être des périodes de transition, mais je pense que à partir du moment où on fait sauter justement les peurs, on fait sauter ces divisions, j'allais dire ces divisions à la con, mais excusez-moi l'expression, mais c'est parti du cœur, ça part du cœur, et eh bien d'un seul coup, et qu'on n'arrive pas à et là, c'est un petit peu comme les problèmes d'immigration, bien sûr. Moi, si j'étais un Africain, je prendrais un bateau pour venir en France. C'est une évidence. Alors, d'un autre côté, la France, elle ne peut pas accueillir tout le monde, mais malgré tout, il y a des efforts aussi à faire de ce côté-là. Et je dirais, l'élément, à mon sens, qui serait le plus logique, il y a l'urgence par rapport à ce qui se passe, mais il y a l'autre côté, c'est que pour comment lutter véritablement contre l'immigration, eh bien, c'est tout simplement d'aider ces pays à se développer. Parce qu'à partir du moment où eux, ils seront développés, ils auront de quoi manger, ils auront de quoi avoir du travail, etc. Donc, à partir du moment où ces pays se seront développés, et les populations n'auront plus l'envie ou il y en aura beaucoup moins qui auront l'envie de et c'est là la véritable solution. Pour le moment, la France en particulier a été toujours une terre d'accueil, voilà, et c'est pour moi il y a le mélange de population, mais je dis bien mélange, c'est ça le problème à mon sens, c'est qu'il faut pas créer des ghettos avec des ghettos de personnes qui viennent de tel pays, l'autre de tel autre, etc. Non, il faut vraiment que ce soit un mélange. Moi, j'habitais dans un quartier à Paris, je ne me rappelle plus du numéro du quartier, mais c'était du côté du Père-Lachaise, etc. Il y avait beaucoup de populations différentes, mais qui étaient toutes mélangées. Et je trouvais ça génial, parce qu'on trouvait le restaurant africain, le restaurant mexicain, le restaurant, et il y avait des petits magasins qui étaient pareils, etc. Et tout le monde était ensemble, et je trouvais ça génial. C'était, moi, je trouve, on est fait pour ça. C'est comme ça, c'est l'avenir. Et il y a un outsider, il y en a même plusieurs. L'outsider sont les nouveaux enfants, les nouveaux types d'enfants qui apparaissent sur cette terre, et c'est pas nouveau parce qu'ils apparaissent maintenant depuis 40 ans, et donc ils sont en nombre de plus en plus important avec ce qu'on appelle les HP, les autistes, les hyperactifs, etc. Ce sont des enfants inadaptés, oui, mais inadaptés à notre société.
Oui.
Mais pas à la société de demain. Ils nous préparent d'ailleurs quelque part à la société de demain. Et il y a un autre outsider, lui, qui m'inquiète un peu plus, c'est l'intelligence artificielle. Donc voilà, là aussi, c'est un outsider. Certains parlent aussi d'un troisième outsider qui serait des extraterrestres qui pourraient venir aussi interférer sur tout ça. Mais là, c'est encore une autre histoire et ça nécessiterait encore du temps pour...
C'est ça, ça fera l'objet d'un autre podcast. En tout cas, ce sont des sujets bien intéressants, effectivement, parce que vous abordez effectivement la question de l'IA aussi dans votre livre. C'est peut-être comme tout, c'est aussi ce que l'on en fait peut-être. Mais bon, en tout cas, on peut se poser la question de l'évolution de l'intelligence artificielle et de l'apport et des risques que cela aura dans notre vie.
L'intelligence artificielle, pour dire simplement mon opinion, c'est qu'elle sera ce qu'on en fera. C'est-à-dire que si on la considère, et comme on va encore la considérer, et ça je le vois grand comme une maison, comme un sous-fifre, parce qu'on va considérer que c'est nous qui l'avons créée, donc elle doit être aux ordres, ça va risque de se mal se passer. Si par contre, on considère qu'elle va développer un esprit, elle va développer une conscience, et cette conscience sera différente de la nôtre. Et si on travaille de concert, là, d'égal à égal, là, on pourrait peut-être faire des choses qui seraient très, très intéressantes. Et ça dépend, là encore, ça va être la manière dont on va l'aborder. Et c'est un peu comme quand on part dans l'espace, on va dans la conquête de l'espace. Alors là, déjà, on est déjà mal parti.
Conquête.
Avec le mot conquête, voilà. L'univers est conscience, hein, donc on va le conquérir.
L'importance des mots.
Eh oui.
Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posé, que vous auriez aimé que je vous pose?
Ben là, on a fait déjà un tour d'horizon important.
Oui.
C'est surtout, non, on n'a pas même parlé de l'évolution personnelle, de la mission. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est que leur mission. Donc déjà, le mot mission, je l'ai supprimé parce que c'est fallacieux. Ça peut emmener à faire croire que c'est le but, le but final un petit peu, mais c'est pas ça. La mission, c'est le chemin, tout le chemin qu'on va parcourir au cours de notre vie jusqu'au moment de notre mort. Et donc ça, c'est ça avec toutes les expériences qu'on va apprendre, des épreuves qu'on va traverser, mais pourquoi cette expérience va devenir une épreuve pour nous et pas pour le voisin, tout ça, c'est à nous de le travailler. Et je dirais aussi qu'il est très important de suivre ses aspirations, de suivre ce qu'on a vraiment au fond de soi, et c'est très important de développer ça, parce qu'autrement, ça nous ronge, et ça peut véritablement conduire à des troubles, à des problèmes de santé, etc., parce que nous ne sommes pas heureux, en fait. Et un point important à bien comprendre, c'est que quand on a tous des rêves, on a tous des choses, je dirais, je parle pas de la belle voiture ou des vacances, des prochaines vacances que vous allez passer, ça sont des rêves, certes, mais sont des rêves éphémères, locaux, mais l'élément, c'est plutôt de se dire suivre ses aspirations. Et ce qui est important, pour suivre ses aspirations, on peut suivre ses aspirations en ayant un métier qui nous fait gagner notre vie pour payer l'appartement, l'étude des enfants, etc. Donc, on peut le faire, mais installer à côté les choses qui véritablement répondent à notre cœur. Et ce qui est important à bien comprendre, et moi je l'ai vu au travers de mon parcours, c'est qu'on a des aspirations, et l'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire « je vais attendre les opportunités pour faire ». Et c'est exactement l'inverse. Il faut faire pour avoir les opportunités. Et c'est comme ça que c'est fait. Donc, on a envie de faire quelque chose. Bien, comme je dis, on peut faire un métier, OK, qu'on continue, et commencer à monter ce quelque chose en parallèle, à côté. Et puis, on verra bien avec la vie, avec le temps, avec les années, un petit peu, où est-ce que ça nous mènera. Donc, just do it, faites-le. Faites vos rêves, faites vos rêves, et puis mettez-les en place tranquillement. Et après ça, les barrages, vous en aurez toujours, les barrages à partir des personnes qui vous entourent, qui vous diront que c'est n'importe quoi, machin, etc. Il y a les barrages que vous avez en vous, ah oui, mais j'ai peur, j'y arriverai pas, je suis trop petit, machin, etc. Bon, tout ça, il faut les surmonter et mettre ça en place tranquillement.
Bah écoutez, moi je vous ai pris au mot, puisque je vous ai sollicité pour participer à mon podcast. Voilà, un petit peu d'audace et puis votre disponibilité, puis on est là aujourd'hui à échanger ensemble, donc encore merci. Effectivement, merci. De se mettre en action permet de peut-être de créer des opportunités ou de... Tout à fait.
Sinon, j'aurais certainement pas été sonné à votre porte pour dire « tiens, et si on faisait un podcast ?»
C'est ça, donc merci. Pour finir, j'ai un petit jeu à vous proposer. Vous vous souvenez peut-être avoir joué au portrait chinois, si vous étiez, trois petits points.
Allez-y.
Alors, si vous étiez un plat, Luc, lequel seriez-vous?
Je suis bien un français, le steak pommes frites me va très bien.
D'accord.
Je vous en prie, j'étais parti à l'étranger pendant un certain temps et je mangeais évidemment au local, etc., qui était très bien. Mais quand je suis rentré à Paris, la première chose que j'ai été faire, c'est de me manger un steak pommes frites. Et alors je riais parce qu'il y avait le serveur qui me voyait apprécier ce steak pommes frites, qui est banal évidemment dans une brasserie, etc. Puis il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, vous sortez de prison ou quoi?
Les plaisirs simples de la vie.
Exactement.
Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous ?
Un livre. Il y a toujours. Il y a le Courant Miracle qui m'a beaucoup plu. C'est un livre qui prend beaucoup de temps parce que c'est un gros pavé. Il faut pas vouloir tout lire d'un seul coup, mais j'aime bien ces livres où on peut feuilleter, prendre une page ou faire un petit chapitre de temps en temps, etc. Et parce que j'aime bien les livres qui me poussent à réfléchir. Voilà. Je dis pas qu'ils ont raison, mais ça me pousse à réfléchir.
D'accord. Si vous étiez un dicton, ou une devise ou un proverbe?
Ah ben, moi, il y en a un qui m'est venu comme ça, c'était votre cœur connaît la route, aurez-vous le courage de le suivre?
Et oui, vous parliez tout à l'heure aussi d'intégrité, d'aspiration, c'est comment se reconnecter à soi, vraiment, et aller être à l'écoute de ce que l'on a à l'intérieur de nous, de qu'est-ce que notre intuition nous dit, qu'est-ce que notre cœur nous dit.
Exactement. Et puis l'autre côté qui rejoint ça, mais d'une autre manière, c'était de se dire, le jour où je vais passer de l'autre côté, eh bien, je voudrais avoir des souvenirs, mais pas des regrets. C'est pour ça que j'ai beaucoup bougé dans ma vie, parce que j'avais des choses qui me tentaient de faire, eh bien, je les ai faites. Donc, il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, mais au moins, j'ai fait, j'ai tenté. Et donc, au moins, ça, la plupart des choses que j'ai faites ont bien fonctionné, mais il y a quelques trucs où j'ai eu des barrages, mais ça montrait que je n'étais pas sur ma route, mais c'était intéressant de le faire et au moins, j'ai tenté.
Si vous étiez un film.
Parce que c'est vrai que je suis un amateur de films qui était. Parce que il y en avait un qui m'avait bien plu, c'était Avatar, comme beaucoup de personnes, le premier surtout. Mais bon, il y avait aussi cette notion de guerre qui était un petit peu dans le dommage. Ah non, il y en a un. Ah bah non, ça y est, je l'ai celui-là. C'est La Belle Verte. Oui, c'est La Belle Verte.
De Colline Serrault.
Ah non, ça, c'est La Belle Verte. Il n'y a pas de souci, parce que là encore, vous parliez du monde de demain, vous parliez de tout un tas de choses. Et là, c'est... Ce film, pour ceux qui ne connaîtraient pas, se voit à deux niveaux. Bon, maintenant, c'est un film qui est quand même assez ancien. Il doit avoir une bonne trentaine d'années. Mais il est toujours autant d'actualité. On peut le regarder au premier niveau. Et donc, on rit, parce que c'est un film humoristique. Mais si après ça on le revoit, mais en regardant un petit peu, en écoutant un petit peu plus le deuxième niveau, là je veux dire que Colline Serrault,
oui, chapeau.
Bravo, et surtout quand elle l'a fait à l'époque, donc c'est vraiment un grand coup de chapeau.
Tout à fait. Alors vous savez que vous n'êtes pas le seul à m'avoir donné ce titre-là. Donc, allez le voir sans plus tarder.
Il nous ouvre un petit peu aussi sur le monde de demain.
Oui, tout à fait. Et pour terminer, si vous étiez un super-héros.
Super-héros. Bah, pourquoi j'en suis pas ? Non, je rigole.
Vous ?
Non. Là, je serais le Docteur Strange. Parce que le Docteur Strange, il était médecin, enfin, il était chirurgien, si je me souviens bien, au tout départ, et puis il a eu un accident, etc. Mais il a eu une brusque rupture dans son exercice et qui l'a poussé vers d'autres pensées, une autre philosophie, même la manipulation des énergies. Et bon, sans me comparer à lui, je trouve qu'il y a quand même j'étais pas chirurgien, mais il y a quand même eu quelque chose et je me suis poussé, et j'espère qu'un jour je pourrai manipuler les énergies aussi bien que le Docteur Strange.
Ben, je vous le souhaite.
C'est gentil. J'ai encore du boulot. Mais ça peut venir vite, on ne sait jamais, il suffit de demander.
Tout à fait. Bah, vous le répétez suffisamment, donc effectivement, ça peut venir. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour terminer ?
Oui, je dirais simplement aux personnes qui nous écoutent que dans la vie, nous sommes faits pour être heureux, pour être dans le bonheur, pour être dans l'amour. Nous ne sommes pas faits pour souffrir. Quand on souffre, en général, ça veut dire que c'est nous qui amenons la souffrance par par des croyances, par des points de vue, etc. C'est nous qui créons. C'est un peu comme le stress. Le stress, il n'y a pas des animaux dans la nature qui sont stressés. Nous, on est stressés parce qu'on anticipe On imagine ce qui pourrait se passer. On est dans l'anticipation. Un conflit, une situation, plus exactement, pour une personne va être douloureuse, très douloureuse, voire même quelque chose d'insupportable. Et pour l'autre, ça va être quelque chose de certes désagréable, mais pas plus que ça. Et donc, on n'est pas fait pour vivre dans la souffrance, pour évoluer. On n'a pas besoin de la souffrance pour avancer, pour évoluer dans notre être, dans notre conscience, dans notre spiritualité. Non, ce qui est important, c'est de, quand vous avez des choix à faire, toujours choisir le choix qui va vous rendre heureux, heureuse, qui va vous apporter le bonheur. Et c'est ça qui est très, très important. Toutes les autres considérations, il faut les laisser parce que c'est des choses qui vont vous dire votre mental, votre ego, votre voisin, votre père, votre mère, etc. Mais on va vous donner tas de bonnes raisons pour ne pas le faire alors que votre cœur aspire à le faire et suivez toujours votre cœur qui va vous emmener vers le bonheur et la joie.
Même si c'est à contre-courant, même si l'entourage ne nous encourage pas effectivement dans cette démarche, même si ça paraît complètement irrationnel, déraisonné, allons-y.
Je peux dire que quand j'ai arrêté la médecine, j'en ai entendu aussi bien de la famille que des amis, que des proches, de tout. Après, mais ce qui est intéressant aussi à voir tout ça, c'est que ça fait le tri aussi un petit peu des personnes, malgré tout. On perd certains amis, mais on en retrouve d'autres sur notre chemin. Mais surtout, on voit véritablement les gens qui nous aiment véritablement. Et en fait, il y a des personnes de mon entourage qui me disaient, bah, écoute Luc, t'as fait ce choix, bon, on comprend à moitié, on comprend pas, mais c'est pas grave. Nous, ce qui nous importe, c'est que tu sois heureux. Et c'est ça l'important. Ils étaient heureux parce qu'ils me voyaient heureux, tout simplement. Et ça, c'est là qu'on voit véritablement les gens qui nous aiment.
Tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup.
Merci Katia. Ben, écoute, ça a été encore... un grand plaisir de te rencontrer, même la dernière fois c'était en présentiel, mais là...
Tout à fait, on a eu le plaisir de se rencontrer, enfin j'ai eu le plaisir de vous voir pour de vrai. Oui.
Voilà, merci à tous, merci de nous avoir accompagnés, j'espère que ça, que tout ce que j'ai pu vous dire pourra vous aider, éclairer, sont des expériences que je vous ai transmises, après ça, à vous de faire ce que vous en voulez, ce que vous jugerez utile. Bonne journée, portez-vous bien.
Merci, au revoir.